Bonjour et bienvenue sur Ablog Radio. Pour cette émission, nous avons choisi de parler des valeurs de la République, puis ensuite nous présenterons les lanceurs d'alerte, puis la justice sociale et enfin la justice des mineurs.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ablog Radio. C'est Laura, Elise, Clara et Martin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, qui est la devise depuis 1848. Elle reprend les idéaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous allons l'étudier à travers plusieurs arguments et exemples. Nous allons également vous faire découvrir une chanson et un film en rapport avec notre thème.
Je vais vous parler de Cédric Héroux. Jeune agriculteur d'origine niçoise, il est militant anarchiste qui lutte pour aider les migrants. En août 2016, il est arrêté pour avoir aidé plus de 150 migrants à traverser la frontière franco-italienne. Action qu'il mène régulièrement depuis 2015 et dont il a été arrêté plusieurs fois. Il confie au quotidien Libération qu'il vote, je cite, « soit vert, soit extrême-gauche et même socialiste ». En plus de les transporter, Cédric Héroux ainsi que trois autres militants vont loger une cinquantaine de migrants dans une gare désaffectée. Suite à son procès, Cédric Héroux est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé quelques 200 migrants à traverser la frontière italienne. Et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour occupation illicite d'un bâtiment de la SNCF. Après sa condamnation, il dénonce un racisme d'État. Selon lui, la justice suit une politique d'extrême droite. Malgré sa condamnation, ce militant anarchiste continue d'aider les migrants jusqu'en juillet 2018, où il obtient victoire devant le Conseil constitutionnel. Le Parlement doit réécrire la loi à ce sujet, pour percevoir plus de protection, mais l'aide à l'entrée des migrants reste sanctionnée. Cédric Héroux est aujourd'hui connu à l'international. On lui a même consacré un éditorial dans le journal américain le New York Times. L'affaire Héroux est un parfait exemple de délit de solidarité. On ne peut donc pas dire que la France soit complètement fraternelle.
Je vais vous présenter le film « I to give » qui veut dire « La haine qu'on donne » de George Stillman. Sorti le 23 janvier 2019, ce film porte sur le thème de l'égalité avec une jeune fille de 16 ans, Star Carter, qui vit entre deux mondes très différents. Elle vient d'une zone résidentielle pauvre, principalement habitée par des Noirs, mais elle fréquente une école privée pour les élèves privilégiés, majoritairement blancs. Quand un jour elle voit son meilleur ami, Cali, se faire tirer dessus par un policier, l'équilibre délicat entre les deux mondes est perturbé. Bien que la pression s'exerce de toutes parts, Star décide de ne se laisser aucune pression, de se battre pour la justice. On pourrait croire que c'est un film pour adolescents, mais en fait c'est un véritable plaidoyer contre les inégalités qui touchent les jeunes comme les adultes. L'héroïne du film nous montre comment elle se bat contre le racisme, c'est un sujet encore d'actualité.
Rentrez chez vous, c'est le titre de la chanson de Big Flo et Oli.
Big Flo et Ellie se mettent dans la peau de réfugiés. C'est une inversion de la crise actuelle, avec les conflits et autres. Cette chanson amène en partie à la paix. Ils disent être fiers, en tant que fils d'immigrés, d'avoir fait passer leur message.
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que 3 fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté, la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau.
Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Des wagons bondés me rendent insomniaque. Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête et redémarre, me tendent des haut-le-coeurs. On a fait en 2 jours ce qu'on faisait en 6 heures. Je dois rejoindre la famille au port de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar! Pas grave, je les rejoindrai en barque. Pas de réseau, impossible de choper une barque. Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tatou dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup, le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Marseille avec la petite fille dans mes bras, presque un jour de retard. Ils sont tous partis sans moi, mais j'ai les contacts d'un passeur. Une plage et une heure, plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul. Il me dit choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste. Et nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable. À la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir retrécit. Et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête. En une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos zappes et la laisse sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli. Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, peut le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous ».
Accueillir tous les Français. Ils arrivent par milliers.
Ils avaient un minimum d'honneur. Ils l'ont
pour finir, donc, il manque une des trois valeurs de votre devise. C'est laquelle?
Oui, la liberté.
La liberté. Du coup, est-ce que vous, dans votre quotidien, vous vous sentez libre?
Moi, je pense que on est assez libre, que ce soit dans notre vie hors du lycée ou même dans le lycée. On peut faire ce qu'on veut. On n'est pas un pays en guerre. On peut sortir le mercredi après-midi au lycée. On peut sortir le week-end. On peut aller au cinéma. Enfin,
plein de choses sont possibles. Du coup, à partir de ce que m'a dit Clara, pour vous, être libre, ce serait pouvoir faire ce qu'on veut. Ça résume bien.
Mais qu'on ait quand même des contradictions. Normal, quoi. Enfin,
où il y a des contradictions dans la liberté.
Oui, quelques-unes, mais on est quand même assez libre comparé à d'autres pays, quoi.
Et pourquoi, d'après vous, c'est une valeur qui a été inscrite comme ça dans la République, si on va chercher plus loin dans l'histoire? Est-ce que...
Parce qu'avant, on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait, de faire ce qu'on veut et de dire ce qu'on voulait.
Oui, il y avait, par exemple, une partie de la paysannerie au Moyen-Âge qui était... Qu'est-ce qu'on... On pourrait les comparer à quoi, ces paysans de l'époque?
À des animaux. Enfin, ils suivaient ce qu'on leur disait. Ils faisaient ce qu'on leur disait de faire. Et...
Oui, ils appartenaient au seigneur.
Ils faisaient les choses, enfin, leur vie elle était en fonction des autres et pas en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire ou des choses comme ça. Maintenant on peut choisir notre métier, choisir les études qu'on va faire. Déjà on a droit à une éducation alors qu'avant on n'y avait pas forcément droit.
C'est une chance.
Voilà.
Et c'est ce qui peut vous amener à être libre, justement, à penser par vous-même aussi. Si je reviens un petit peu en arrière sur mes paysans du Moyen-Âge, est-ce que... Enfin, je cherche à vous faire dire un terme, mais voilà, il y avait des gens qui... appartenait à d'autres gens. Et c'est ça peut-être aussi ne pas être libre.
Oui, c'était un peu comme de l'esclavage. Quoi.
Donc ça, quand même, vous avez la chance de vivre 200 ans après son abolition.
Oui.
Vous avez conscience que c'est une vraie chance?
Oui.
Oui, pour le coup, c'est une chance parce que on peut choisir notre métier, comment on va vivre plus tard, notre
avenir.
Vous
avez le droit de vous exprimer aussi.
Oui, voilà.
Oui.
La liberté.
C'est pas que la liberté de... Enfin, c'est une liberté générale, on peut parler, penser ce qu'on veut, alors qu'avant on ne pouvait pas forcément penser ce qu'on voulait. On peut avoir notre propre religion sans être jugé.
Liberté de croyance, presque. Liberté de conscience.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés, en espérant que ce sujet vous aura fait réfléchir sur certaines valeurs de la République. Nous vous laissons en compagnie de nos camarades.
Et nous revoilà sur Abloc Radio avec Lucas et Tanguy qui vont nous parler des lanceurs d'alerte.
Bonjour, je suis Lucas.
Et moi c'est Tanguy.
Et aujourd'hui, nous avons envie de vous parler des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte peuvent être seuls ou en groupe, ou même une institution qui connaisse un danger ou des problèmes dans une entreprise ou dans la vie commune. Il s'agit généralement de personnes qui estiment avoir découvert des éléments menaçants pour l'homme, la société, l'économie, l'environnement, et qui, de manière désintéressée, décident de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations ou de médias. À la différence, le lanceur d'alerte a de bonne foi et animé de bonnes intentions. Le lanceur d'alerte met souvent en risque sa santé financière ou physique, la tranquillité de son couple ou de sa famille, sa sécurité personnelle et son image. Les lanceurs d'alerte sont régulièrement l'objet de poursuites bâillons, des procédures judiciaires dont le but réel est de censurer un détracteur. Une loi a été créée en 2007 pour pouvoir protéger ces fameux lanceurs d'alerte.
Alors nous avons le témoignage d'une lanceuse d'alerte. Alors c'est une dame qui était salariée de l'UBS en 2008 et qui a été licenciée car elle a dénoncé des pratiques délictueuses. Elle a dénoncé ce trafic car il détournait de l'argent avec d'autres pays. Elle a interpellé le président de la République et le médiateur de la République. Son entreprise lui a laissé 3 ans pour qu'elle quitte l'UBS. Les lanceurs d'alerte mettent leur vie en danger. Nous trouvons que c'est courageux de leur part puisque c'est très important. Nous vous laissons avec Ethan, Aurore, Alex, Paul et Anna sur le thème de la justice sociale.
retrouvons sur un blog radio avec Aurore, Paul, Anna, Alex et Ethan sur le thème de la justice sociale.
Pour commencer, nous allons vous donner une définition de la solidarité nationale. Tout d'abord, la solidarité nationale, c'est quoi ? C'est une mission assignée au ministre des Affaires qui se forme autour de deux points. Le parti en faveur des groupes sociaux et les pratiques d'intervention favorables à la cohésion sociale, l'action collective et l'action participative.
De nos concitoyens, nous leur avons posé quelques questions pour avoir leurs avis. Voici leurs réponses.
Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser des questions ?
Oui, je suis un petit peu pressée, mais je vais essayer de vous répondre rapidement.
D'accord, alors, pensez-vous que les Français sont solidaires ?
Je dirais que ça dépend pourquoi. Dans certains cas, je pense que oui, les Français peuvent être solidaires. Et dans d'autres cas, ben, je dirais que le Français, quand même, est plutôt quelqu'un d'égoïste. Donc, je dirais que ça dépend.
Les gens sont de plus en plus égoïstes. Ils pensent à eux. Donc, la solidarité...
Non, pas trop. Ah, pourquoi ? Ouais, parce que, bon, peut-être que le partage n'est pas équitable. Pour certaines choses, le partage des ressources, du travail et tout ça, quoi.
Ouais, je dirais oui et non. On voit bien qu'il y a une grande participation pour une grande association comme les Restos du Cœur et c'est ce genre d'association, mais on voit bien que nos acquis, on ne veut pas les faire partager à d'autres.
Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez, mademoiselle, par être solidaire ? Il y a plusieurs formes de solidarité. Mais on ne va pas se lancer dans la philosophie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas perdre leurs acquis. Et donc la solidarité est un peu plus difficile à pratiquer. Pour moi, être solidaire, c'est aider l'autre, mais pas toujours à sens unique. Et aider sans en tirer forcément un avantage financier pour moi, ou un avantage matériel. Aider pour aider. Bon, d'autre part, il y a quand même de la solidarité si on regarde bien. Quand je regarde tous ces jeunes qui partent en humanitaire, donner de leur temps et quelquefois de leur argent, ou bien ces jeunes qui se mettent au service d'handicapés ou de gens dépendants sans pour autant être rémunérés, c'est de la solidarité. Donc mon avis est un peu partagé, d'après ce que je dis, mais il n'y en aura jamais trop de la solidarité.
D'accord. Que pensez-vous du partage des ressources ? Est-ce qu'il est équitable ?
En France, je pense que non. Je pense qu'il y a des gens qui sont très très riches et en parallèle, il y a des gens qui restent très pauvres. Donc je dirais que non.
Non, pas du tout, parce que sinon on ne parlerait pas autant des riches et des plus pauvres.
Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ?
Oula ! C'est une grande question. Je dirais qu'il faut peut-être taxer les plus riches et arrêter de taxer les Français moyens, peut-être. Hein.
Ben déjà, il faudrait payer proportionnellement des ressources et que tout le monde paye, que ce soit même les petits revenus, je dirais moi. Mais tout le monde paye proportionnellement une part, quoi. Que tout le monde se sente responsable des impôts. Les impôts sur le travail. Pour réduire le coût du travail et inciter un peu plus les gens à travailler. Exiger peut-être une contrepartie aux rétributions sociales, je veux dire. Tous les gens qui touchent l'argent de l'État devraient avoir une contrepartie à restituer pour justifier les prestations sociales et tout ça, les aides au logement et tout ça. Tous les gens qui touchent l'argent devraient participer à la vie de l'État, des communes.
Belle question. Bon, a priori, je ne crois pas que ce soit très équitable. Je ne l'ai pas contrôlé, mais je crois avoir entendu ou lu que la fortune mondiale était détenue par un tout petit nombre de personnes. Dans quelques années, je crois que ce sera encore plus criard. Donc, je crois que cet exemple-là montre qu'on est loin de l'équité. Et pourtant, si nous n'acceptons pas de réduire notre train de vie, on va contre le mur.
Mais déjà, rétablir, avoir un impôt sur le revenu plus juste et rétablir l'impôt sur la fortune, ça serait déjà un pas vers ça.
Quels impôts faut-il, à nos yeux, baisser en priorité ?
L'impôt sur le revenu, je pense que c'est la réponse la plus grande que vous allez avoir. Et après, peut-être, tout ce qui concerne l'habitation, peut-être.
Non, ça, c'est un point chaud. Je ne suis pas très, très au courant de la fiscalité. Mais je pense que le calcul des impôts n'est pas très juste. Il faut vraiment ne pas gagner beaucoup pour ne pas être imposable. Ceux qui gagnent beaucoup se débrouillent pour ne pas payer l'impôt sur la fortune. Finalement, c'est la classe moyenne qui fait les frais des impôts. Alors, des impôts, après, il faut rajouter toutes les taxes. À la France, on est champion pour ça. Hein ? On commence par les taxes sur les ordures ménagères, les taxes sur ceci, les taxes sur cela. Vous verrez, mademoiselle, quand vous travaillerez, vous serez ponctionnée, à moins que le système ait changé. Je vous le souhaite.
Quelles sont les économies qui semblent prioritaires à faire ?
Arrêter de payer les gens qui servent à rien, peut-être.
Et pourquoi ne pas tout simplement baisser l'impôt sur le salaire, hein ? La CSG. Au moins, ça toucherait tout le monde.
Mais déjà, arrêter de payer les sénateurs et à l'Assemblée qui ne branlent pas grand-chose. Qui dit pas, et voilà. Déjà, on peut commencer par là.
Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ?
Si on commence à les supprimer, déjà qu'il n'y en a plus beaucoup, on va pas aller bien loin.
Certainement. Peut-être que dans les bureaux, quelque part, il y a des gens qui sont payés à rien faire hein, et qui servent à rien. Peut-être, hein, mais c'est difficile, vos questions. Hein.
Je ne sais pas s'il faut supprimer les services publics. Je suis mal placée. Je n'ai pas une vue suffisamment pointue. Mais ça suppose d'avoir un bon discernement sur le sujet. Parce que plus on supprimera de services publics, et plus les zones rurales deviendront des déserts. Parce que dans un village, s'il n'y a plus d'école, s'il n'y a plus de poste, eh bien, le village meurt très rapidement. Dans les magasins, c'est pareil. On supprime les caissières. On met un péage automatique, là, vous passez. Bon, mais dans quelques années, il n'y aura que ces bornes-là. Il y aura peut-être une personne pour contrôler. Ben, ce seront des postes à moins. Est-ce qu'on sera assez fort pour offrir des postes dans d'autres domaines ? L'avenir nous l'apprendra. Mais je trouve qu'on est en train de déstructurer la société et c'est quand même dommage. On a tendance plutôt à fermer les structures, fermer des écoles, On a regroupé les départements ou les régions en grosses régions. Apparemment, on ne nous a pas encore montré que ce soit très efficace. La grande région Aquitaine, ça n'a pas donné des miracles depuis qu'elle est créée. Et l'Occitanie, je ne sais pas si on a supprimé beaucoup de postes, si on a fait des économies. Par contre, c'est beaucoup plus inconfortable pour le tout venant. On ne va plus à la mairie pour chercher sa carte d'identité. Il faut aller à Peterjnok chercher sa carte. Moi, je suis pour qu'on garde les besoins de proximité. Sinon, on déshumanise complètement notre société. Alors, qu'est-ce qu'il faut créer ? Mais il faut continuer de créer des écoles, continuer de créer des hôpitaux, des maternités. Les écoles, maintenant, on nous fait des classes à petit effectif. Tout à fait d'accord. Mais au lieu de faire des classes à petit effectif dans un endroit où il y a déjà 15 ou 20 ou 30 classes, pourquoi ne pas garder dans les petites communes, les petits villages, des classes à effectifs normaux ?
Non, je ne pense pas, parce que dans certains coins, on est reculé un peu, mais je veux dire, loin de tout, la poste garde ses utilités, le télécom encore aussi, là où on a des zones blanches, tout ça, je pense qu'il faut garder les services publics.
Et à l'inverse, faut-il entrevoir des besoins nouveaux de services publics et comment les financer ?
Alors, comment les financer, c'est une grande question. J'ai malheureusement pas la réponse. Et après, il faut, au lieu de les supprimer, je pense qu'il faut continuer à privilégier les services de proximité. Les services de proximité sont quand même utiles à tous les jours. Et de plus en plus, on nous les supprime et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors que voilà, il y a, quelque part, certainement, il y a des gens, oui, qui sont payés à rien faire et ces gens-là, on n'en a pas besoin.
Peut-être le service public nouveau serait d'exiger qu'il y ait des... mettre en place des médecines de proximité un peu plus, ce qui pose problème à la campagne où il n'y a plus de médecins.
D'accord.
Rapprocher la médecine de ses patients.
Et, par exemple, pour le réseau téléphonique ou Internet, on n'est pas capable d'avoir une France entièrement sous réseau, alors que ça doit être une obligation. Et ça met déjà une inégalité par rapport aux gens et aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès à Internet alors que tout le monde veut passer à Internet.
On supprime beaucoup de services qui seraient nécessaires. On supprime par exemple certains hôpitaux, certaines maternités, dans les banques, dans les postes, on supprime les guichetiers, les caissières, tout ça. Bon, ce serait intéressant que ça persiste. Il y a un échange humain, il y a un service, il y a plutôt que ces espèces de robots qui nous mettent maintenant. Bon, ils pourraient créer des crèches, par exemple. Les gens, ils vont travailler, ils n'ont pas toujours une nounou ou un papy ou une mamie pour garder les enfants.
Mais merci beaucoup et peut-être à bientôt.
Peut-être.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes intéressante.
Merci bien. Bonne journée.
Bonne journée.
Nous remercions ces personnes pour avoir répondu à nos questions. En écoutant ces micro-trottoirs, nous avons pu retenir que toutes ces personnes partagent le même avis sur la solidarité des Français et sur le partage des richesses. Ils disent que le partage des richesses est très inégal et très mal réparti. Il y a des riches et des pauvres, c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de milieu.
Je ne pense pas non plus. Les riches seront toujours plus riches et les pauvres seront toujours plus pauvres.
Tout d'abord, nous allons commencer par citer quelques chiffres qui nous révoltent. Dans le monde, il y a 296 150 milliards d'euros, dont 50% sont détenus par les 26 personnes les plus riches au monde. Est-ce que c'est normal que ces personnes détiennent autant d'argent alors que d'autres meurent de faim et se battent pour survivre? Moi, je pense pas. Tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim. Il y a suffisamment assez d'argent pour que chacun de nous puisse vivre de manière décente. De nos jours, rien n'est gratuit. L'argent est omniprésent. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais si j'étais vous, je réfléchirais davantage à notre avenir et à ceux de nos prochains. Avant de ne penser qu'à moi, ça s'appelle être égoïste. J'ai un exemple très concret de personnes qui ont la capacité de s'enrichir facilement. Les sportifs. Parlons premièrement des footballeurs. Je comprends qu'ils soient payés pour leurs efforts humains, mais par contre, je ne comprends pas qu'un footballeur soit payé 33 millions d'euros juste pour taper dans un ballon. Cette somme exaltante est donnée à Antoine Griezmann. Je ne vois pas l'intérêt d'être payé autant juste parce qu'un homme ou même une femme tire sur un ballon et marque des buts. Ils sont payés cher pour le peu de choses qu'ils font. Mais j'ai un autre footballeur en tête. Paul Pogba, lui aussi a le droit à beaucoup d'argent, moins que Griezmann, mais le chiffre reste quand même exubérant. Le montant est de 22,1 millions d'euros. Vous trouvez ça normal, vous, que soit payé autant alors que des gens travaillent nuit et jour sans avoir quelque chose en retour? C'est inadmissible.
La chanson « Un homme debout » de Claudio Capeo.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte.
Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Si je m'endorme,
merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonne.
Si je m'endorme, réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais.
Cette chanson nous fait passer un message. C'est comme si nous n'avions pas ou peu d'argent, il faut rester debout et toujours garder le sourire. Claudio Capeo, dans cette chanson, incarne un SDF, un homme fauché qui meurt de faim et demande de l'aide pour continuer à vivre. Il fait la manche dans les rues et espère un jour redevenir comme ces personnes qui le nourrissent et lui permettent de vivre.
Donc maintenant, nous allons vous présenter un film, La mer à boire. Donc ce film est l'histoire d'un homme tenant une petite entreprise qui rapporte peu. Donc celle-ci commence à couler et des acheteurs très riches envisagent de l'acheter. Mais le gérant refuse et fait tout pour la garder. Le film nous fait part d'une dure solidarité, mais en réalité, ce film nous apporte un certain regard social exprimé par la manifestation des salariés de l'entreprise Pierret, dont une grande partie risque d'être licenciée, suite à un enchaînement de problèmes financiers de cette même entreprise. Ce film dénonce une vérité quotidienne dont nous parlons trop peu.
En guise de conclusion, je dirais que le partage des ressources est très inégal et que les Français restent très pauvres dans leurs gestes solidaires. En Europe et partout dans le monde, il faudrait agir pour établir les inégalités, même si ce n'est pas mince affaire. Et si nous voulons que la France s'améliore, chaque Français doit faire des efforts.
Pour conclure cette première partie sur les valeurs de la République et la justice sociale, nous vous proposons d'écouter le député français insoumis Adrien Quatennens et sa vision de l'ordre républicain lors d'un débat télévisé.
Comme souvent, on convoque l'ordre républicain pour faire des injonctions au calme. Mais la République, ce n'est pas un régime neutre. La devise, c'est pas vite bon pour les frontons des mairies. C'est liberté, égalité, fraternité. 566 morts dans la rue, dont 13 enfants. Est-ce que c'est l'ordre républicain? 9 millions de pauvres dans ce pays. Est-ce que c'est l'ordre républicain? 500 morts par an au travail. Est-ce que c'est l'ordre républicain? Un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Est-ce que c'est l'ordre républicain? Non, ça n'est pas l'ordre républicain. L'ordre républicain, ça n'est pas les tirs de lanceurs de balles de défense et les grenades de désencerclement pour réprimer un mouvement de contestation populaire. L'ordre républicain, c'est la souveraineté populaire. L'ordre républicain, c'est l'égalité devant l'impôt. C'est la justice sociale. L'ordre républicain, c'est les intérêts particuliers soumis à l'intérêt général. C'est la loi contre les privilèges. Voilà ce qu'est l'ordre républicain.
Aurore, que peux-tu nous dire sur ce discours d'Adrien Quatennens ?
Alors, qu'est-ce que l'ordre républicain ? Pour M. Quatennens, l'ordre républicain se résulte aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Mais pas seulement, c'est l'égalité devant l'impôt, c'est la justice sociale. C'est aussi une sérénité populaire. Cet homme politique affirme que le gouvernement dit beaucoup de belles paroles et fait énormément de promesses qui ne sont la plupart jamais respectées. Dans ce discours, il critique aussi la société actuelle en prononçant des chiffres choquants tels que un agriculteur qui se suicide tous les deux jours, 9 millions de pauvres dans le pays, 500 morts au travail et 566 morts dans la rue, dont 13 enfants. Ces chiffres montrent bien que notre société n'est pas parfaite et c'est ce que nous allons démontrer.
Merci Aurore pour ce commentaire.
Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
Et maintenant, le dernier groupe de cette émission.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'Ablog Radio, encore une fois, avec Mathieu.
Bonjour.
Ben moi, Élie, Bastien, Quentin.
Bonjour.
Et encore Mathieu.
Bonjour.
Nous allons vous parler des droits et des devoirs des jeunes et de la justice chez les mineurs. Nous allons vous raconter cela grâce à différents témoignages et questions. Alors, en 2017, 871 mineurs sont emprisonnés. Revue de presse, lycéens mobilisés, le 6 décembre dernier, des violences ont eu lieu près du lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. Deux voitures ont été incendiées notamment. Les policiers ont procédé à l'arrestation musclée de 151 jeunes.
On les voit sur des images à genoux, mains entravées ou sur la tête. Ils ont été rassemblés dans le jardin d'un pavillon et d'une maison associative. Il a été annoncé deux enquêtes sur la procédure et sur l'auteur des images, notamment par le défenseur des droits, dont leur but est défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés.
Maintenant, nous allons vous parler du film « La tête haute » d'Emmanuel Berco du 13 mai 2015. Il raconte l'histoire de Maloney, à qui à sa très jeune mère, irresponsable, droguée et instable, n'assure pas un cadre affectif et éducatif satisfaisant. Se voit placé par le juge des enfants dans plusieurs établissements de plus en plus contraignants. Sa scolarité désastreuse est interrompue, il est sujet à des crises de violence qu'il ne contrôle pas et multiplie les délits. Cependant, la magistrate persiste à tenter de l'aider en dépit du peu de résultats auxquels elle parvient et malgré le comportement souvent hostile, mais parfois attachant, du jeune garçon attaché plus que tout à sa mère et à son frère.
Ce film, plein d'émotions, nous raconte l'histoire de Maloney, un jeune homme issu d'une famille à problème et qui par ses actes se voit contraint face à la justice et la dure loi de la vie. Ce film nous a beaucoup touchés car cette histoire est sans doute inspirée de faits réels, ce qui peut faire réfléchir sur la justice chez les mineurs car c'est alarmant de voir un jeune de 15 ans dans une telle situation. On a aussi ressenti de la joie pour ce garçon car au final il retrouve une vie normale même après tout ce qu'il a subi.
Et pour conclure, nous trouvons tous que les droits et la justice chez les mineurs sont largement dépassés par ceci. Et nous trouvons que le comportement de certains jeunes en France est inadmissible et abusif. Mais je trouve aussi que les jeunes n'ont pas tellement de droits en France et que la justice des mineurs est plus stricte que celle des majeurs. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt sur Ablock Radio.
Et c'est la fin de l'émission Ablock Radio sur les valeurs de la République faite par la classe de seconde B.